quoi puis-je vous aider ?
48 digital. Communication numérique. Réactivité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bonjour et bienvenue, il est 12h30 et vous êtes en direct sur 48FM et la page Facebook de Lozère Développement. Pendant une heure, l'émission 48 Digital, en collaboration avec la licence professionnelle Tourisme d'affaires et Festivalier Territoire, sera consacrée au Community Management et aux établissements touristiques. Je suis Aïcha et je serai votre animatrice pour cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir trois chroniqueurs, dont Sarah, Diana et Olivier, ainsi que deux invités d'honneur, Laetitia Aldebert, gérante à l'hôtel des Deux Rives à Banassac, et Fanny Arrancher, Community Manager. L'émission va commencer en compagnie de Laetitia Aldebert sur la partie des établissements touristiques et en deuxième partie, nous retrouverons Fanny Arrancher pour l'aspect community management. Donc, merci Laetitia pour votre présence. Pouvez-vous, pour commencer, nous en dire plus sur votre domaine d'activité ? Donc, présenter votre établissement, la date de création.
D'accord, ben bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, du coup, je tiens l'établissement, l'hôtel-restaurant Les Deux Rives, à Banassac-la-Canourgue. Donc, c'est un établissement basé sur la partie hébergement et restauration. Donc, on a 28 chambres et une capacité en restauration à 60-80 couverts en fonction de la saisonnalité des extérieurs. Donc, voilà, c'est un métier qui est quand même assez éclectique. On travaille beaucoup sur la partie communication, aussi bien site internet, réseaux sociaux. Et on a une clientèle qui est très diversifiée en fonction de la saisonnalité et des périodes de l'année.
D'accord. Et quel est votre positionnement du coup concernant votre établissement ?
Donc on a un établissement 3 étoiles déjà. D'accord. En termes de qualité. On travaille beaucoup la partie producteurs locaux sur la partie restauration. On a vraiment une volonté, une démarche de faire tout maison et travailler vraiment le plus possible en circuit court pour montrer le savoir-faire qu'il y a sur notre territoire.
D'accord, voilà. Très bien. Vous travaillez avec une agence de communication ou bien indépendamment ?
Alors à ce jour, indépendamment, et j'ai déjà eu affaire à travailler avec une entreprise de communication.
D'accord.
Et ça s'était très bien passé. J'ai souhaité repasser moi de façon individuelle parce que j'avais plus de temps qui s'était libéré de mon côté. Et je voulais plus de communication, donc passer par une agence, c'est quand même un budget. Donc
oui, c'est
il
vrai.
Faut savoir pouvoir se l'accorder et savoir jusqu'où on veut aller. Et quand on veut communiquer plus et... Il faut choisir si on souhaite le faire seul ou se faire accompagner. Donc là, j'ai fait la démarche de vouloir le remettre en interne pour publier plus, faire plus peut-être ce que moi je voulais. Peut-être qu'un jour, je reviendrai vers une agence, mais à ce jour, on est assez satisfait et on essaye de faire au mieux.
D'accord, très bien. Donc j'ai vu que vous avez déjà fait appel à l'agence de communication Soconseil, pardon.
Oui.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Eh bien, j'ai fait l'appel à l'agence au conseil déjà parce que je venais d'avoir un petit garçon, donc le temps se limitait, voilà, donc il fallait faire des choix. Ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu plus vers d'autres horizons et sortir un peu la tête du guidon aussi parce que des fois, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire et ce qui est vraiment utile et qui apporte en termes de communication.
Oui, bien sûr.
Donc ça m'a permis de recentrer un petit peu mes pages, faire qu'elles soient plus visibles, plus vues et également... améliorer la qualité des contenus. Du coup, après, une fois que tout s'est remis un peu en place au niveau de l'entreprise, j'ai souhaité le remettre en interne, voilà, justement, pour publier plus en termes de contenu.
D'accord.
Parce qu'on était parti sur une publication semaine, sur Instagram, sur Facebook, 2 stories semaine. Et avant de passer par cette société, j'étais déjà très présente sur les réseaux en termes de moyenne de publications semaine. Donc, décembre, je trouvais que ça faisait trop peu.
Oui.
Et après, en mettre plus, il faut avoir le temps de le faire aussi. Donc, pour arriver à trouver ce juste milieu en termes de quantité, de qualité de contenu, j'ai voulu le remettre en interne.
D'accord, très bien. Et justement, grâce à la communication faite sur votre établissement, vous pouvez nous dire si ça vous permet d'attirer plus de clients ou pas forcément ?
Alors, on va dire que sur la partie hôtellerie-restauration, la communication réseaux sociaux apporte deux façons de voir les choses. Il y a recruter de nouveaux clients et consommateurs qui vont venir chez vous, se faire connaître. Et il y a aussi une grosse partie fidélisation de la clientèle qui aime vous suivre. Parce que nous, on va dire, on a la clientèle locale sur la restauration. Mais le gros de la clientèle, c'est la clientèle hôtel qui mange aussi sur la partie oui, restauration, qui n'est pas forcément une clientèle locale, qui est une clientèle de passage et qui peut être une clientèle habituée, mais on va dire habituée, qui passe 2 à 3 fois par an. Ils descendent dans le sud, ils remontent. Des fois, ils disent, je reste 2 jours sur la Lozère parce que j'ai vu justement qu'il y avait plein de choses à faire. Donc, je vais aller dans cet établissement que je connais. Tiens, regarde, ils ont mis cette nouvelle offre en place. Ça pourrait correspondre pour ce qu'on veut faire. Ou même des fois, ils connaissent notre établissement, on va dire, en termes de particuliers. Et l'offre qu'on met en avant, des fois pour du séminaire ou autre, peut correspondre à leurs attentes au niveau de leur entreprise.
D'accord, très bien. Et à quel moment vous avez dit qu'il fallait faire absolument de la communication ? C'était une nécessité pour faire évoluer votre entreprise ?
On va dire que dès que j'ai repris l'entreprise en 2009, j'ai refait le site internet. On a fait assez tôt tout ce qui était réseaux sociaux, e-newsletter, tout ça. Donc, c'est vraiment des supports qu'on utilise depuis très longtemps. Voilà. Après, les réseaux sociaux évoluent. Avant, c'était que Facebook. Maintenant, c'est Facebook, Instagram. Passé un temps, on était très présents sur Pinterest. Là, y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Il faut se tenir à jour, mais ce n'est pas évident. Quoi, voilà.
D'accord. Et vous faites que de la communication média ou passez par d'autres supports ?
Après, on a toute la partie communication, site internet qui amène beaucoup. Après, de par notre appartenance aussi à la chaîne des Logis de France, ça amène aussi une communication sur internet et sur leur réseau à eux.
D'accord.
Après, la communication papier, pas tellement. Un peu la communication, on va dire, des offices de tourisme, du CDT. Qu'on utilise parce qu'elle existe et que justement on est automatiquement dessus. Mais après, ça va être par rapport les labels aussi dans lesquels on est qui amènent aussi au niveau de communication.
D'accord, très bien. Et depuis quand vous êtes dans le métier hôtelier du coup ?
Depuis toujours.
Depuis toujours, voilà. D'accord.
Formation attaquée dans les années 2000 et depuis j'y suis.
D'accord, très bien. Et vous pouvez nous dire quelle est la principale évolution que vous avez remarquée, que ce soit en termes de communication ?
Le dernière minute ? Aussi bien dans le terme de consommer que dans la façon de communiquer avec les gens. On le voit, avant, les gens réservaient leur séjour pour une durée de 15 jours sur la côte ou en Lozère. Ils savaient que tous les ans, à telle date, ils allaient dans cet établissement pour 10 jours. C'était leurs 10 jours de l'année. Alors que maintenant, on décide le jeudi, qu'est-ce qu'on va faire le vendredi. Et en termes de professionnel, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas si on doit prévoir pour 10, pour 50, pour 60. Mais c'est comme ça que consomment les gens, que nous aussi on consomme comme ça maintenant. Je veux dire, moi la première, je pars en 2 jours à Pâques, je réserve 3 jours avant de partir. Je râle de mes clients, mais je fais exactement les mêmes modes de consommation. Et sur les réseaux, c'est pareil. Enfin, on poste ce qu'on voit à l'instant T, c'est la dernière minute. Et pour les modes des consommateurs d'utilisation, c'est pareil.
D'accord, très bien. Et donc justement, concernant les évolutions, on va accueillir maintenant Sarah, donc chroniqueuse, pour nous parler de l'évolution des hébergements touristiques et de leur mode de communication.
Oui, bonjour Aïcha. En effet, vous imaginez bien que depuis le 19e siècle, date à laquelle on peut évaluer le début du tourisme, les hébergements ont bien évolué, même si certains sont toujours d'actualité. Et là, je pense tout d'abord au camping. Au début du 19e siècle, les campeurs partaient à l'aventure pour se reconnecter avec la nature. Cette forme d'hébergement économique était pour eux synonyme de simplicité et d'authenticité. À cette époque, les moyens de promotion étaient limités par rapport aux méthodes contemporaines. Les voyageurs avaient connaissance de bons emplacements grâce à l'envoi de lettres, de cartes postales ou encore par le biais de bouche à oreille. C'est également une époque où les premières agences de voyage ont commencé à développer les voyages organisés. Ce fut le cas de Thomas Cook en 1840, de même que les guides de voyage qui ont commencé à devenir populaires. Au cours des années 1920-1930, les motels ont commencé à émerger le long des routes principales, offrant un hébergement abordable et pratique aux voyageurs en voiture. Les hôtels, quant à eux, se sont développés dans les centres-villes pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires. Cette époque a été marquée par la montée de chaînes hôtelières renommées. L'âge d'or des motels-hôtels a été marqué par divers moyens de communication anecdotiques pour attirer les clients, car qui n'a jamais vu dans les films américains les fameux motels avec les grands panneaux aux néons lumineux pour attirer l'attention des voyageurs la nuit ? Viennent ensuite les complexes touristiques qui ont vu le jour dans les années 50-60 avec des destinations emblématiques comme Las Vegas ou Disneyland. Ils avaient pour but d'offrir divertissement, restauration et hébergement tout compris. Les gens venaient pour l'expérience globale plutôt que pour l'hébergement. Les complexes touristiques ont été marqués par une créativité et une concurrence féroce pour attirer les voyageurs. Les moyens de communication et de promotion étaient conçus de façon à captiver l'imagination de la clientèle, comme la mise en place de chambres à thème pour se démarquer, comme des chambres de style western, de style futuriste ou d'autres concepts créatifs. L'arrivée d'Internet a ensuite bouleversé l'industrie de l'hébergement touristique. Les plateformes de réservation en ligne comme Airbnb ont permis aux particuliers de proposer des logements à des voyageurs du monde entier, créant ainsi une explosion de l'offre d'hébergement unique et personnalisé. De plus, la communication est devenue un élément essentiel pour attirer des clients et maintenir une réputation positive. Les médias sociaux y ont joué un rôle important car des plateformes comme Instagram ou YouTube ont été essentielles pour interagir avec les voyageurs, partager des photos ou encore des vidéos et promouvoir des offres spéciales, tout comme le développement des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont devenus des partenaires de choix pour promouvoir les hébergements touristiques. Leurs collaborations permettent d'atteindre un public plus large et de générer plus d'engagement. En fin de compte, l'évolution des hébergements touristiques est le reflet des évolutions sociales, économiques et technologiques de notre société. L'offre d'hébergements touristiques continue de s'adapter pour répondre aux besoins et aux envies de tous. Une chose est sûre, l'expérience de l'hébergement touristique ne cesse d'évoluer et de nous surprendre. Justement, dû à cette évolution et avec le déclin de certains réseaux sociaux tels que Facebook et la montée d'autres comme TikTok, est-ce que cela vous préoccupe pour le futur de votre activité et de votre démarche de promotion sur les réseaux sociaux ?
J'ai ouvert TikTok la semaine dernière. Voilà. Donc, tout simplement parce que j'ai une équipe qui est assez jeune et dynamique, qui m'a dit « Laetitia, tes vidéos, pourquoi vous ne les mettez pas sur TikTok ?» Donc bon, j'ai ouvert TikTok, on découvre l'outil. Oui. Je me dis « Encore un outil sur lequel je vais passer beaucoup trop de temps, pas forcément très constructif, mais il faut évoluer avec. Après, ce n'est pas les mêmes clientèles, ce n'est pas les mêmes tranches d'âge. On dit que Facebook est en plein déclin, mais Facebook, il y a quand même encore énormément de monde dessus. Oui. » La population qui utilise Facebook n'est pas forcément la population qui utilise TikTok. Du coup, après, c'est là qu'il faut vraiment savoir qui c'est qu'on veut cibler et qui c'est qui est notre clientèle. Donc, à ce jour, ma clientèle principale est quand même utilisatrice fortement de Facebook et d'Instagram. Ma clientèle du futur, à ce jour, utilise TikTok et peut-être un jour utilisera autre chose aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à suivre ces réseaux sociaux et aussi à s'y mettre dessus parce que moi, la première, il y a 10 ans, je n'utilisais que Facebook. Maintenant, je suis sur Instagram. Mon dernier week-end, dans une semaine, je l'ai réservé grâce à quelque chose que j'ai vu sur Instagram. Ça ne me serait jamais venu à l'idée il y a 10 ans, voilà. Donc oui, il faut suivre toutes ces évolutions.
D'accord, merci.
Avec plaisir.
Et vous avez pu passer une formation, justement, par rapport à la communication sur vos réseaux sociaux. Vous avez appris sur le tas, comme ça ?
Alors, moi, j'ai fait plusieurs formations par le biais de la CCI.
D'accord.
Il y en a eu quelques-unes avec Pollen et avec le CFA Campus aussi en dessous. Mais c'est vrai que ça apporte toujours un plus, ça apporte les bases. Après,
oui,
il faut arriver soi-même aussi à s'y mettre un petit peu pour se développer. Après, des fois, il y a des conférences qu'on suit, qui nous apportent toujours des plus aussi. Il y a les formations inter-entreprises des salariés. À ce jour, chez moi, c'est mon réceptionniste qui s'occupe de la partie réseaux sociaux. Donc nous, pendant la période Covid, on a eu énormément de temps disponible, du
D'accord.
temps qu'on n'avait pas.
Oui.
Il s'est formé sur les réseaux. Donc après, on monte ensemble tout ce qu'on souhaite par rapport aux publications. On fait nos agendas tel jour sur quoi on veut publier. Mais du coup, c'est lui qui développe la partie mise en page, conception, les textes, les hashtags, tout ça.
D'accord. Voilà. Donc vous avez une équipe communication au sein de votre établissement quand même.
J'ai un réceptionniste polyvalent. Voilà.
D'accord. Et donc, depuis vos débuts sur les réseaux sociaux, vous constatez quand même une différence en termes de communication ?
Ah oui, forcément. Enfin, c'est des évolutions qu'on a toujours du mal à mettre en place. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, au début, le but des réseaux, c'était acheter, découvrir, informez-vous, aller sur le site internet. Il y a d'autres façons de parler maintenant. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop comment trouver la bonne tournure pour ne pas être trop directif, mais en voulant quand même arriver au but que les gens aillent sur votre site internet ou qu'ils aient envie de venir manger chez vous,
oui.
qu'ils aient envie de passer la porte pour se dire « Ah oui, c'est chouette, ça change. » C'est des produits locaux, ça permet de garder de l'activité sur le territoire. C'est toute une échelle.
D'accord, très bien. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de la communication ? Vous avez un objectif à terme ?
On va dire qu'une boutique, on va dire plus physique, des fois a un objectif chiffre d'affaires. Nous, sur la partie hôtellerie-restauration, c'est quand même pas évident de quantifier les résultats en termes de chiffres.
D'accord.
Donc, voilà, là où on se rend compte que, qu'on a du résultat, c'est quand les gens partagent, quand les gens viennent, quand les gens qui sont pas venus d'un an disent bah, « on vous suit parce qu'on a vu que vous aviez évolué, que vous aviez créé cette nouvelle offre ». Tiens, on a vu ce nouvel aménagement de chambre, on voudrait être dans la nouvelle aile. C'est comme ça qu'on se rend compte, c'est pas forcément évident de le quantifier, mais...
Oui, bien sûr, j'imagine.
Et on voit quand même qu'il y a un impact et un suivi, oui.
D'accord, vous avez donc des retours, j'imagine. Oui. Les internautes oui, interagissent oui. quand même sur les
Tout
réseaux
sociaux. Tout à fait, oui.
D'accord, très bien. Et combien de temps par semaine, par exemple, vous passez à communiquer sur les réseaux sociaux?
On programme beaucoup.
D'accord, la programmation.
Pour justement, ben, comme je vous ai dit, Alexandre, il n'est pas aussi que community manager. Voilà.
Bien sûr.
Donc, il faut pouvoir s'organiser sur les temps où c'est un peu plus calme. Mais je pense qu'à la semaine, on est bien à 4 à 6 heures, je pense.
D'accord, quand même, oui.
Ben, on va dire Instagram, il me fait un reel ce semaine. Donc déjà, il fait un peu de montage vidéo quand même. Ça prend un petit peu de temps, les stories... Moi-même, des fois, ben, voilà, je fais des stories aussi en plus de celles qui préparent. Des fois, je pense qu'on a envie un peu trop de s'embêter aussi sur la mise en page. Donc, on passe des fois peut-être un peu trop de temps sur Canva aussi. voilà, des fois, il faut arriver à trouver le juste milieu, à se mettre des freins D'accord. aussi, je pense.
Et vous publiez à quelle fréquence, du coup, sur les réseaux sociaux?
Deux fois semaine deux sur fois. Facebook et Instagram. Et les stories, au moins une fois tous les deux jours. Et moi, je publie de façon, on va dire, un peu plus spontanée en story. Tous les jours quasiment.
D'accord. Ça va être le même rythme du coup sur TikTok ?
Alors sur TikTok, nous sommes à une semaine et demie, il y a 3 vidéos pour le moment.
D'accord.
Et je suis en train de me dire, bon, il faudrait peut-être que tu mettes la prochaine parce qu'ils m'ont dit qu'il en fallait au moins une par jour. On n'y est pas à une par jour. Hein. Voilà.
Vous suivez les tendances un peu ?
Ben, on les suit parce qu'on les regarde. Apparemment, en ce moment, on n'a pas encore passé Halloween, qu'on commence déjà à parler de Noël. Donc voilà, on y est déjà.
Et est-ce que vous avez une anecdote drôle ou insolite à nous raconter justement concernant la communication par exemple faite sur vos réseaux sociaux?
Bon, on va dire que nous ce qui est le plus drôle c'est quand on fait les montages souvent, qu'on se creuse un peu les ménages pour faire les mises en scène. Des fois, il y a quelques années on avait fait des reels vraiment dédiés à Noël justement et c'est là où on rigole un peu quoi, quand chacun amène sa déco de chez soi pour mettre un petit plus, des fois on rigole, voilà.
Bon d'accord, très bien. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu présente aujourd'hui.
Avec
d'avoir
plaisir, merci à vous. Questions. Merci bien.
Donc on se retrouve juste après la pause musicale.
Thank you.
On accueille à présent Fanny Arrancher, qui est community manager sur le territoire de la Lozère. Mais juste avant de commencer, Diana, notre chroniqueuse, va nous parler des clichés du community management.
Merci Aïcha. En effet, le métier de community manager est un métier nouveau qui est confronté à de nombreux clichés. D'ailleurs, peut-être que Fanny en a déjà entendu quelques-uns. Tout d'abord, on entend souvent dire que c'est un effet de mode. Alors oui, au début, c'était un métier en vogue. Mais on est forcé de constater qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre société et qui sont de plus en plus nombreux. Les entreprises ont donc dû s'y adapter, car il est impensable aujourd'hui de ne pas être présent sur la toile, encore plus depuis la crise du Covid, car c'est un format de plus en plus utilisé. Mais il faut admettre que c'est un métier d'avenir, surtout avec les ventes qui se font de plus en plus via les réseaux sociaux. Il est souvent dit aussi que c'est facile, que c'est un métier que tout le monde peut faire. Tout le monde poste des photos sur Facebook et Instagram. Mais la différence est qu'un community manager fait tout cela, mais dans un but précis. Il doit adopter une stratégie avant de poster, car son but c'est de fidéliser ses followers et d'en recruter des nouveaux. Pour cela, il doit prendre en compte un tas de données, comme l'heure à laquelle il poste, le choix des mots-clés, des hashtags, les idées de contenu et bien d'autres encore. Il doit s'adapter à la cible qu'il veut toucher, tout en correspondant bien à l'esprit de l'entreprise. Il doit donc être multi-compétent. Un autre cliché qui rejoint un peu celui-là, le community manager ne sert à rien. C'est faux, et encore plus maintenant que les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans notre quotidien. On passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Le community manager est donc important et joue un rôle majeur dans la notoriété et dans l'image des entreprises, car il met en valeur les produits et donne envie de les acheter. Donc il attire de plus en plus de clients qui achètent, ce qui contribue au chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour finir sur un des nombreux clichés, on entend souvent dire que c'est un métier pour les jeunes. C'est de moins en moins le cas car les premiers community managers commencent à prendre de l'âge. Certains sont des personnes en reconversion professionnelle, donc ils ont déjà plusieurs années d'expérience dans d'autres domaines. Mais surtout, c'est un métier comme tous les autres qui nécessite certaines qualités et compétences, comme être créatif, réactif et avoir une bonne culture web, savoir prendre du recul et d'autres encore. Mais toutes ces qualités n'ont aucun rapport avec l'âge. Alors tout le monde peut se lancer dans ce nouveau métier qui est devenu essentiel aujourd'hui au sein d'une entreprise qui veut rester au goût du jour et qui veut faire face à la concurrence.
Merci Diana. Fanny, en Lozère, on vous connaît tout particulièrement pour vos compétences en community management. D'où vient cette appétence pour les réseaux sociaux ?
J'ai toujours été à fond, on va dire, sur les réseaux sociaux et pendant mes études, j'ai fait toujours des projets dans la communication et une fois que j'ai terminé mes études, j'ai voulu tout simplement continuer. Après, il fallait se former parce qu'entre utiliser les réseaux sociaux à titre personnel et professionnel, il y a une marge de manœuvre. Après, c'est vraiment c'est pas que les réseaux sociaux, en fait, il y a tout un aspect communication derrière. Certes, on publie, la finalité, c'est publier sur les réseaux sociaux, mais il y a tout un aspect derrière création de contenu qui rentre en jeu, quoi.
D'accord, très bien. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire ?
J'ai un parcours pas très, pas dans la norme, on va dire. J'ai fait un bac ST2S. J'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation. Donc déjà, ça n'a pas trop de rapport, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, après le DUT, j'ai pas voulu continuer parce que je savais pas tout simplement dans quoi me spécialiser. Et j'ai décidé après de créer mon entreprise parce que je me suis dit que pourquoi pas, j'avais rien à perdre et puis j'avais envie surtout de travailler, de m'y mettre quoi. Et du coup, je me suis formée après quand même en parallèle sur des formations complémentaires pour vraiment renforcer mes compétences pour pouvoir proposer des prestations solides tout simplement pour pas vendre du vent, être compétente tout simplement.
D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer et pourquoi en Lozère ?
La Lozère, ça me paraissait... C'était évident parce que j'habite en Lozère, j'ai toujours vécu en Lozère. Et en fait, c'est simple. En Lozère, on a beaucoup d'entreprises qui ont des savoir-faire, qui ont des produits qui sont vraiment bien, mais elles ne savent pas forcément les mettre en avant. Il y a un vrai manque sur la communication, ce n'est pas leur métier. Vrai. Et du coup, j'avais vraiment envie d'apporter ça aux entreprises lozériennes, quoi, de mettre en avant nos entreprises lozériennes, et aussi de montrer qu'on... La Lozère, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise en Lozère qu'on est obligé de se contenter de la clientèle locale de notre ville. C'est-à-dire que les gens peuvent venir chez nous parce qu'on a communiqué depuis l'autre bout de la Lozère ou depuis ailleurs. Donc c'est, ça ouvre un peu aussi le champ des possibles pour l'entreprise, quoi.
Oui. Et comment se démarquer justement au sein de ce métier alors que de plus en plus de personnes se lancent ?
Diana le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, mais après c'est sur la durée et le travail. Beaucoup de personnes se lancent sans se rendre compte du boulot que ça demande vraiment.
Oui.
C'est énormément de régularité, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut travailler tous les jours, parce que si on veut des résultats sur les réseaux sociaux pour une entreprise, il faut travailler tous les jours pendant un certain nombre de temps avant que ça porte ses fruits. Donc il faut vraiment la régularité. Et après, j'ai oublié la question.
Comment se démarquer ou...
Se démarquer, faut être soi-même, et puis chaque community manager a ses compétences. Donc en fait, il y a des community managers qui sont spécialisés,
oui.
Par exemple dans la restauration, et qui du coup vont avoir des appétences sur la photographie, tout ça. Chaque community manager a sa spécialité, et donc après, voilà.
D'accord, merci. Et justement, quels sont les services que vous proposez ?
Donc moi j'aide les entreprises à se développer grâce aux réseaux sociaux, donc il y a la partie community management où je gère les réseaux sociaux des entreprises, et après il y a la partie accompagnement où là c'est plus des ateliers avec les entreprises pour les aider à se développer, mais en fait qu'elles arrivent à gérer elles-mêmes leurs réseaux sociaux, et donc moi je suis là derrière pour les aider à mettre en place les actions et les accompagner tout simplement.
Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vous arrivez à en vivre ?
Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance. J'arrive à vivre de mon activité. Après, c'est comme tout début d'entreprise, j'ai envie de dire. Je ne peux pas dire que c'est viable à 100% parce qu'il y a des mois où je vais plus ou moins gagner.
D'accord, ça varie.
Mais après, je ne me plains pas parce que j'ai du travail. Donc c'est bien. J'ai de la chance.
D'accord, très bien. Et vous êtes sous quelle forme juridique, du coup ?
Je suis en auto-entreprise pour le moment.
D'accord,
je trouvais
très
que
bien.
C'était un statut pour se lancer qui
n'est pas
stressant, dans le sens où si jamais à la fin du mois, on n'a rien à déclarer en termes de chiffre d'affaires, c'est pas grave, on ne paie rien. Donc c'est assez confortable.
Et vous refusez des clients par rapport à votre éthique ? Ça vous arrive ?
Ça m'est déjà arrivé.
D'accord.
Parce qu'en fait, par exemple, j'ai eu le cas où je travaillais avec une entreprise. Donc j'étais déjà en contrat avec cette entreprise-là, et j'ai vraiment une entreprise concurrente qui a voulu travailler avec moi. Et donc j'ai juste expliqué que c'était pas possible, parce que si je veux donner le meilleur de moi-même sur un secteur, je peux pas travailler avec deux entreprises similaires sur vraiment le même secteur. Donc voilà,
oui,
après...
Bien sûr.
Ça arrive, si on ne sent pas une collaboration, de toute façon, faut pas y aller, quoi.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement du moment où le client vous contacte jusqu'au moment où la prestation a lieu ?
Alors, d'abord, on fait un rendez-vous découverte. Ça va permettre d'identifier les besoins du client. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Est-ce qu'il veut plutôt déléguer à 100% ? Est-ce qu'il faut juste un accompagnement ? On va situer un peu où en est le client. Si j'ai une prestation ou une offre qui correspond... Je présente mon offre, il y a validation ou pas par le client. Si le client valide, on refait un rendez-vous où là je pose vraiment tout un tas de questions très précises pour vraiment prendre en main et l'entreprise, savoir où on va, les premières idées, savoir la cible, vraiment, c'est un rendez-vous, des fois ça dure 2 heures,
ah oui,
parce qu'il faut vraiment rentrer dans les détails pour que je m'immerge le plus possible dans l'entreprise. Et ensuite, donc là, de mon côté, je travaille une stratégie, la première idée de création de contenu, je le présente au client, donc un troisième rendez-vous. Et une fois que tout ça est validé, je me déplace au sein de l'entreprise pour pouvoir vraiment avoir l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise et pouvoir le refléter au mieux sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Et après, en général, une semaine après mon passage dans l'entreprise, la première publication est en ligne.
D'accord, donc c'est vraiment personnalisé.
Il faut, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ce soit personnalisé. Et puis, avant que je communique pour une entreprise, il faut vraiment que je ressente l'entreprise pour que ce soit le plus possible aligné avec l'entreprise, quoi.
Et ça se fait rapidement, justement, ce cheminement, ou ça dépend, en fait ?
En général, en un mois,
D'accord.
En un mois, on arrive à tout mettre. Et puis après, le premier mois de collaboration, quand je dis premier mois, c'est le premier mois où on publie. C'est hyper important que l'entreprise, je lui demande énormément de retours pour qu'elle me dise ce qui ne lui a pas plu, ce qui lui a plu, pour vraiment, au fur et à mesure, affiner la communication.
D'accord, donc ça vous demande quand même un peu de temps pour connaître le client et pour pouvoir lui proposer des services adaptés.
Oui, voilà, c'est ça.
Et il vous arrive souvent d'accompagner des établissements touristiques dans leur stratégie de communication ?
De plus en plus, parce qu'on a, on a un territoire, mais enfin, on a de la chance en Lozère, on a vraiment des entreprises qui se bougent dans le tourisme, qui oui. se retrouvent l'hiver pour savoir ce qu'on va mettre en place pour la saison d'après. Donc je travaille avec plusieurs entreprises dans le tourisme. Et c'est toujours c'est particulier parce que l'été c'est très intense et après ça se calme un petit peu un petit peu, donc c'est une clientèle différente.
D'accord. Et ça représente une part importante dans votre travail?
Je dirais la moitié à peu près des entreprises, donc, oui, quand même. Parce que le tourisme est quand même bien présent en Lozère, oui. Donc tout le monde est plus ou moins impacté par le tourisme, mais oui, je dirais la moitié de ma clientèle.
D'accord, merci. Et concernant le community management, on accueille à présent Olivier, chroniqueur, pour nous parler des community managers au service des établissements touristiques.
Bonjour Aïcha et Fanny. L'essor des réseaux sociaux a bouleversé la manière dont nous planifions nos voyages et découvrons de nouveaux endroits à visiter. Au cœur de cette révolution digitale se trouve un nouveau métier, celui de community manager. Des professionnels de la communication qui jouent un rôle essentiel dans la promotion des établissements touristiques. Dans cette chronique, nous allons explorer le lien entre les community managers et les établissements touristiques, une alliance qui transforme l'industrie du tourisme. Les community managers sont les gardiens de l'image en ligne des établissements touristiques. Ils sont responsables de la gestion des comptes de médias sociaux, de la création de contenus engageants, de la réponse aux commentaires et aux questions des voyageurs et de la mise en place de stratégies marketing numérique pour attirer de nouveaux clients. Les community managers utilisent également les réseaux sociaux pour partager des conseils de voyage, des actualités locales et des offres spéciales, ce qui maintient l'engagement et l'intérêt des abonnés tout au long de l'année, quelle que soit la saison touristique. L'industrie du tourisme est en constante évolution suivant le monde numérique, qui évolue rapidement, et les community managers doivent suivre le rythme et être prêts à s'adapter. Ils doivent surveiller les nouvelles tendances, les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux et ajuster leur stratégie en conséquence. Par exemple, la montée en puissance des réseaux sociaux visuels comme Instagram a incité les community managers à se concentrer davantage sur la création de contenus visuels de haute qualité et de courte durée, appelés les réels ou encore les shorts sur YouTube. En 2023, selon le blog du modérateur, Instagram reste le réseau social le plus important aux yeux des community managers, pour 79% d'entre eux, devant LinkedIn et Facebook. Nous pouvons noter le recul de X, anciennement Twitter, et la montée de YouTube et TikTok. Cette dernière application est vue comme prometteuse, mais de trop nombreuses marques restent absentes de l'application chinoise. Les community managers jouent un rôle clé dans la réussite des établissements touristiques. Ils façonnent l'image, la réputation en ligne des destinations, construisent des communautés engagées et s'adaptent aux défis de l'industrie du tourisme en constante évolution. S'adapter à ces constantes évolutions du monde touristique et des communications nécessite sans aucun doute une capacité d'adaptation. Mais quelles sont les autres qualités qui sont nécessaires pour le métier de community manager ?
Pour un community manager qui veut travailler, on va dire, avec des entreprises dans le tourisme, il faut être hyper réactif. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle est en saison et qu'un client demande quelque chose via les réseaux sociaux, il faut être hyper réactif parce que la personne, si elle veut venir sur le site touristique ou dans l'établissement, si elle n'a pas une réponse rapide, c'est fichu, elle ira ailleurs. Donc du coup, il faut être très réactif et je pense aussi être mobile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester forcément derrière son ordinateur, il faut se déplacer chez les clients tout simplement pour créer du contenu parce que les entreprises elles n'ont pas le temps et elles n'ont pas la même vision aussi. Donc ça et puis l'adaptabilité, il faut tout le temps s'adapter, être hyper créatif et pas rester, faut pas se reposer en fait sur ses acquis parce que ça, on est sur un environnement qui évolue très vite. Et par contre, moi au niveau local, le Facebook est un vrai atout et j'ai de vrais résultats avec des clients. On est même surpris parfois parce qu'on a des publications, on ne sait pas forcément pourquoi elles vont énormément marcher. Il y a encore énormément de monde sur Facebook et surtout en Lozère, ça c'est vraiment un réseau à ne pas laisser de côté.
Merci Olivier. Quelle est votre motivation à faire le travail de community manager ?
J'aime ce que je fais, j'aime mettre en avant les entreprises. Je me plais aussi à avoir plusieurs casquettes, parce qu'en fait, quand on, enfin, si je travaille pour un espace bien-être ou pour un établissement dans le tourisme, il faut maîtriser les codes, les langages de ce secteur-là. Donc j'aime bien aussi ce côté-là de pas d'avoir plusieurs métiers, mais de devoir maîtriser quand même plusieurs métiers, de savoir de quoi je parle. Donc voilà, j'apprends toujours en fait.
Et comment s'est passé votre lancement du coup sur les réseaux sociaux ?
Au départ, quand j'ai créé mon entreprise, je voulais pas du tout être sur les réseaux sociaux. Et heureusement que j'ai fait une formation où on m'a dit mais il n'y a pas le choix, on m'a pas forcé, mais on m'a vraiment incité. Du coup, je me suis lancée sur les réseaux. Et on va dire que pendant 6 mois, j'ai vraiment été très assidue sur moi, ma création de contenu. Et c'est ce qui a permis que en 2022, enfin la première année, 60% de mes rendez-vous, même si je travaille avec des entreprises locales, ont été générés via Instagram. Donc c'est un vrai canal d'acquisition. Et c'est pas juste je fais des vidéos comme ça et ça fait rire les gens. C'est derrière, il y a vraiment des contacts qui se font avec les entreprises et ça permet de me faire connaître.
D'accord. Et comment vous avez réussi à vous créer une vraie communauté, un bon carnet d'adresses?
Je pense que on n'a jamais vraiment, c'est pas acquis.
D'accord.
C'est tout le temps. Il faut être ouvert, faut discuter, faut prendre le temps d'écouter les entreprises pour. Enfin, il y a pas de. Je pense pas que j'ai un carnet d'adresses ou une vraie communauté. C'est en constante évolution. Il y a des personnes qui me suivent depuis le début et heureusement qu'elles sont là. Et il faut pas les oublier.
Oui, bien sûr.
Mais il faut aussi considérer les nouvelles personnes. Mais il y a pas de.
Et vous avez des conseils à donner à ceux et celles qui veulent se lancer peut-être dans ce métier ?
Il n'y a pas de secret, il faut bosser, il faut tester parce qu'il y a des choses. En fait, ce qui va marcher pour certaines ne marchera pas pour d'autres. Moi, les stratégies que je mets en place pour mes clients en Lozère ne marcheraient pas ailleurs parce qu'il y a d'autres endroits où c'est plus développé. Donc, il faut vraiment toujours se réajuster, analyser énormément. Analyser ce qui marche, ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Il faut être multi-casquette parce qu'il faut et savoir prendre des photos et des vidéos alors que je suis pas photographe. Il faut savoir faire plein de choses.
Et vous pouvez nous dire quelle est l'évolution donc du métier de community manager, s'il y en a un?
L'évolution, ça sera un peu l'évolution des médias qui va, enfin des réseaux qui font,
oui.
Qui va nous aiguiller. Après, moi personnellement, je pense que c'est bien de. J'ai plein d'autres idées, mais il faut quand même rester focus parce que les réseaux, vu que ça évolue très vite, si on s'éparpille à faire d'autres choses, on peut vite être largué au final sur les réseaux, quoi.
D'accord.
Donc après ça c'est propre à chacun, il y en a qui se dirigent plus vers la formation. Moi c'est vrai que j'aime vraiment bien gérer les réseaux des entreprises, donc pour le moment ça me convient.
Et donc quelle est votre vision vis-à-vis de l'évolution des réseaux sociaux, avec notamment ceux qui les dirigent, avec la possibilité de rendre ceux-ci payants?
Ça paraît assez fou que les réseaux sociaux deviennent payants parce que pour le moment c'est quand même... une chance pour les entreprises. On a un outil gratuit qui peut nous permettre en organique, sans faire de publicité, qui peut nous permettre de trouver des nouveaux clients. Après, faut voir dans le temps, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, souvent on râle et après on s'aperçoit que c'était pas si mal. Donc à voir. Après, je suis pas forcément pour un contenu payant, mais bon, à voir. Mais j'ai du mal à l'imaginer en fait.
Oui, je comprends bien. Et vous avez une anecdote drôle ou insolite peut-être à nous partager concernant votre métier ?
Alors drôle, je sais pas. C'était la semaine dernière. J'étais à un rendez-vous et je recevais plein de messages de personnes qui me souhaitaient mon anniversaire. Ce n'était pas mon anniversaire. Et en fait, ce que j'ai compris après, c'était que c'était l'anniversaire d'un compte que je gère. J'avais voulu rassembler, lier le compte Instagram et Facebook, et comme quoi, même moi, j'ai fait une boulette. Ça a modifié mes paramètres. Et du coup, il y a une vingtaine de personnes que je connais plus ou moins qui m'ont souhaité mon anniversaire, alors que c'était pas du tout mon anniversaire, même des personnes qui m'avaient déjà souhaité mon anniversaire cet été. Du coup, j'ai la boulette, quoi. J'ai pas compris d'où venaient tous ces messages, et après, j'ai cherché, j'ai compris, j'ai dit, oh, je m'en étais pas aperçue. J'avais fait ça il y a longtemps, cette synchronisation, et en fait, ça avait changé ma date d'anniversaire. C'est pas.
Eh bien, merci en tout cas, Fanny, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu présente.
Merci à vous.
Donc, merci à nos invités Laetitia et Fanny encore une fois, ainsi que nos chroniqueurs pour leur présence sur le plateau. On se retrouve donc le 13 novembre pour la prochaine émission radio qui portera sur la construction d'une destination touristique.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتوح إيميك سيميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتوح I will take the train leave the sun for the rain Your kiss, your